Chapitre 18. octobre, 13h. Sur le ponton qui surplombe l'étang du Doule, ciel orangé, chaude journée d'automne. Périac de mer m'apporte un peu de baume au cœur. L'angoisse est toujours là, mais la douceur du climat et des paysages temporise un peu tout ça. Je crois n'avoir jamais vu de plus beau coucher de soleil que celui qui tombe chaque soir sur l'étang du Doule. L'eau s'illumine de rubis et les flamants roses se découpent comme des ombres noires sur tout ce rouge. J'ai pris l'habitude d'y venir chaque soir. Je m'assois sur le ponton. Parfois, Poc est avec moi. Il a pris l'habitude d'élargir son territoire autour du camping-car. Il aime marcher sur le ponton et renifler l'eau. Il suit la course des poissons entre les hautes herbes. Hier, nous avons découvert le petit port de Périac, celui dont Sébastien nous avait parlé. C'est un port minuscule avec un seul et unique ponton sur lequel sont amarrés les bateaux de pêche. Il y avait encore ce peintre installé en tailleur sur le ponton. Il peignait les bateaux cette fois. Après ça, quand on est reparti, Joanne a décidé d'entrer dans une boutique d'art du centre-ville et elle a acheté quelques toiles, des pinceaux et quelques tubes de peinture à l'huile. Elle les a emmenés ce matin. Elle est partie de bonne heure, je ne sais pas vraiment où. Demain, Sébastien nous amène en bateau pour la journée. Il veut nous faire découvrir les îles qui entourent Périac de mer. Ils sont installés tous les trois dans la barque verte de Sébastien sous un doux soleil d'automne. La brise est légère, juste ce qu'il faut pour créer un joli mouvement à la surface de l'eau. Lucky est avec eux, perché à l'avant de la barque. Il aboie sur les mouettes. Poc est là aussi. Pour le moment, Johan l'a dissimulé dans son grand panier en osier, de peur de faire éclater un conflit entre le chien et le chat. Il se renifle avec méfiance et Poc n'hésite pas à cracher lorsque Lucky s'approche trop. Il est donc plus sûr que Poc reste sagement dans son panier. Le bateau glisse lentement. C'est Sébastien qui pagaie avec application. Johan a le visage dissimulé sous son grand chapeau noir. Elle est penchée par-dessus bord, comme si elle étudiait la coque de la barque. Quand elle se relève, elle demande.
« Le nom de ton bateau, c'est par rapport au roman ?»
Émile voit le visage de Sébastien se fendre d'un large sourire.
« Tu connais ?»«
Bien entendu, c'est mon livre préféré. »
Émile se penche à son tour pour essayer de décrypter le nom du bateau, l'alchimiste. Ce nom ne lui dit rien, il n'a jamais entendu parler du roman. Il a encore cette impression d'être pâteau et lourd, un peu bête. Il ne sait pas si c'est l'angoisse qui lui fait tout voir en noir. Sans doute. Sébastien a décidé de leur faire faire le tour des nombreuses îles. Il leur a demandé de prévoir des pique-niques et une toile de tente.
« Une toile de tente ?» a demandé Émile, surpris.
« Ouais, s'il fait pas trop froid, on pourrait avoir envie de camper sur l'une des îles. »
L'idée l'a enthousiasmé et il a senti le nœud d'angoisse se desserrer dans son sternum. Le silence est retombé sur le bateau, et Émile interroge.
« On est où ? Cet étang est plus grand que l'étang du Doule, non ?»
Sébastien acquiesce.
« On est sur l'étang de Basse-Sigean. »
Il passe une main dans ses cheveux châtains, ce qui a pour effet de les ébouriffer encore davantage.
« Bage aussi est un village authentique, dans le même genre que Périac. » Il faudra le visiter avant de quitter la région.
Johan ressurgit de derrière son chapeau.
C'est aussi un village de pêcheurs ?
Sébastien acquiesce.
Et toi, tu viens d'où ? Interroge-t-il.
Saint-Ciliac, près de Saint-Malo. C'est aussi un village de pêcheurs.
Hé !
S'exclame Sébastien avec enthousiasme.
Je savais pas que tu étais une fille de la mer.
Émile les regarde parler plus qu'il ne les écoute. Il n'a pas envie de participer. De toute façon, il a bien l'impression qu'ils ont déjà oublié sa présence. Et l'angoisse qui l'étreint depuis quelques jours n'est pas responsable de sa morosité soudaine. Mais le regard admiratif de Sébastien posé sur Johan, oui.
Ça ne va pas ?
Johan le rattrape alors qu'ils viennent de débarquer sur l'île de Planas, une île tout en longueur. Il est parti devant, tandis que Sébastien accrochait le bateau sur le rivage et passait une laisse au cou de Lucky.
« Si. »
Il tente de changer de sujet.
Spock est avec toi ?
Non, Sébastien m'a demandé de le laisser dans la barque. Il y a des tonnes d'oiseaux, apparemment, des espèces protégées. Il faudrait pas que Spock les attaque.
Et Lucky ?
Il va le tenir en laisse.
Sébastien et Lucky sont déjà en train de les rejoindre. Emil ne sait pas lequel des deux court avec le plus de fougue. La beauté du lieu, cependant, fait oublier sa morosité à Emil. Peu après avoir débarqué, alors qu'ils suivent Sébastien et Lucky, ils commencent à apercevoir des nids d'oiseaux un peu partout. Le sol en est jonché.
« Faites attention !» signale Sébastien.
« Qu'est-ce que c'est ?»
interroge Johan.
« Des nids de goélands. »
« Ah !»
Elle s'agenouille auprès d'un des nids.
« On peut trouver des petits ?»«
Non, ils font leurs petits au printemps. Mais regardez, ils signalent notre présence à leurs congénères. »
Il désigne le ciel où une dizaine de goélands tournoient à grand renfort de cris.
Ils sont pas vraiment contents de nous voir en général.
Lucky jappe à tout va, ce qui semble encore davantage exaspérer les goélands dans le ciel. Plus loin, il découvre un petit lac et une maisonnette en ruine. Là encore, les oiseaux y ont déposé des nids et fait leur abri. Plus loin encore, Sébastien leur désigne un puits comblé qui sert de perchoir aux ibis, des oiseaux échassiers au long cou et au bec recourbé. Sébastien semble connaître parfaitement la faune et la flore locale. Il leur apprend qu'on reconnaît les bébés goélands toute l'année à leur couleur gris-brun et que l'espèce est protégée. Il leur explique que des aigrettes aussi habitent l'île, mais qu'elles préfèrent regrouper leur nid dans les tamaris. Ils s'arrêtent sur une plage de sable fin pour pique-niquer. L'air marin leur fouette le visage, et Émile s'allonge quelques instants et ferme les yeux. Il a l'impression que l'angoisse s'envole tout doucement. Quelques heures plus tard, alors qu'ils ont repris le large à bord de l'alchimiste, ils découvrent l'île du Soulier. Il s'agit d'une arête rocheuse qui émerge de l'eau. Sébastien leur apprend qu'elle est uniquement fréquentée par les oiseaux et que l'accostage y est impossible en raison des roches immergées. Ils en font le tour, puis mettent le cap vers l'îlot de la Nadière.
« Si on veut passer la nuit quelque part, c'est là !»
annonce Sébastien alors que l'île grandit à vue d'œil.
« Ah ouais ?»«
C'est un village fantôme. Il y a beaucoup de ruines qui nous protégeront du vent. On pourra s'y abriter pour planter les tentes. »
Lorsque le bateau approche du petit îlot et qu'il découvre les ruines baignées dans le coucher du soleil, il n'échange qu'un regard, un seul, pour comprendre qu'ils passeront la nuit ici, coûte que coûte.
« C'est dingue !»
murmure Johan pour elle-même, le regard fixé sur l'horizon. Elle est retournée sur la plage et s'est assise sur le bateau vert bouteille, la main en visière, pour contempler le coucher du soleil sur l'étang. Ils ont fait le tour de l'îlot et du village constitué de ruines sans dire un mot. Même Sébastien est resté silencieux. Des maisons, blotties les unes contre les autres ou séparées par d'étroits passages, il ne reste que des ruines. Certaines ont conservé quelques tuiles sur le toit, et d'autres, de façon étonnante, disposent encore de quelques éléments de mobilier, éviers et cheminées. Sébastien a expliqué que des familles de pêcheurs vivaient ici jusque dans les années 1930. Une passerelle leur permettait d'accéder à l'îlot depuis Port-la-Nouvelle. Il a ajouté qu'une association locale engageait la restauration d'une partie des maisons.
Peut-être que d'ici quelques années, l'îlot sera de nouveau habité.
Ils ont choisi de planter leurs deux toiles de tente au milieu des hautes ruines qui les protégeront du vent et du froid. Ils ont établi leur campement, puis Sébastien a déclaré qu'il allait s'occuper de faire un feu. Johan est parti s'isoler sur la plage, perché sur l'alchimiste, pour savourer le coucher de soleil. Et Émile est allé s'asseoir plus loin dans le sable fin. Il regrette de ne pas avoir son carnet noir avec lui. Il aurait voulu écrire, décrire la beauté du paysage, la magie du moment, les cheveux de Johan illuminés de reflets dorés sous le coucher de soleil, l'ombre minuscule de Spock à côté d'elle, fouillant dans le sable à la recherche d'on ne sait quelle proie, le petit bateau de pêche et ses pagaies reposant tranquillement dans le sable. L'angoisse et la morosité se sont évaporées pour quelque temps. Il est heureux d'être là ce soir. Il est content qu'ils aient rencontré Sébastien, même s'il parle beaucoup trop. Même s'il sait tout sur tout et que ça le rend dingue. même s'il regarde Johan d'un drôle d'air et qu'il lit l'alchimiste. Il essaie de s'en persuader, en tout cas. Il relève la tête quand il entend Johan arriver vers lui, suivi de près par Poc.
« J'ai rarement vu un coucher de soleil comme celui-ci »,
dit-elle en se laissant tomber dans le sable à côté de lui. Il acquiesce. Il songe qu'il a vu plus de couchers de soleil en 3 mois d'escapade qu'en 26 ans. Il sent qu'elle a le regard fixé sur lui, mais il refuse de la regarder dans les yeux. Il préfère continuer de fixer les temps et les dernières lueurs rougeoyantes du soleil.
« Émile, est-ce que ça va ?»
Il pressentait cette question. C'est pour ça qu'il préfère éviter son regard.
« Ouais. »
Il ne la regarde toujours pas. Il joue quelques instants avec le sable qu'il laisse filer entre ses doigts. Poc vient renifler ses mains et repart, peu intéressé.
« Tu m'as l'air un peu ailleurs depuis quelques jours. »
Il sent la boule d'angoisse revenir. Pourquoi veut-elle parler de ça maintenant ? Pourquoi ne pouvait-elle pas attendre demain ou un autre jour, ou même ne jamais demander ? Il était bien. Il avait réussi à calmer l'angoisse pour un temps. Et voilà qu'elle arrive avec ses questions stupides.
« Ça va ?»
répond-il, la mâchoire serrée. La boule comprime ses poumons, sa cage thoracique, bloque sa gorge. Quelques secondes passent, puis Johan revient à la charge, à son grand désespoir.
« Je te trouve silencieux et... effacé. »
Il déglutit. Bon sang, elle ne va quand même pas le pousser à bout. Il serait bien capable de pleurer. Pourquoi se sent-il tellement et stupidement émotif ce soir ?
Eh ben, on a dû inverser nos caractères, voilà tout. Avant, je devais parler pour deux et tu n'ouvrais pas la bouche. Maintenant, c'est l'inverse.
Il n'a pas voulu prendre ce ton sec et cassant. Il s'en veut, mais il est bien obligé de se défendre comme il peut. Il ne va pas se mettre à chialer devant un coucher de soleil parce qu'une fille l'emmerde avec ses questions.
« Tu trouves que... »
La voix de Johan est douce et hésitante.
« Que je parle trop ?»
Il ne peut s'empêcher de la regarder cette fois. Il est pris d'un élan de tendresse qui le surprend.
« Non, non, Johan, je suis content que tu ailles mieux, que tu... »
Il cherche ses mots en creusant des sillons dans le sable du bout de ses doigts.
« Que tu recommences à sourire, comme tu l'as dit. »
Elle a toujours la mine inquiète. Il a presque envie de lui prendre la main pour la rassurer. Mais il ne le fait pas. Elle ne porte pas l'alliance.
« Mais toi, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu étais plus heureux que ça quand on a pris la route. »«
Tu trouves ? » ?»«
Ouais. »
Il ne comprend pas pourquoi elle a l'air si triste tout à coup, jusqu'à ce qu'il l'entende murmurer.
« Si tu veux continuer la route seule, je comprendrai, tu sais. »«
Arrête, Johan, dis pas de bêtises. »«
T'en as peut-être assez de... »«
Ça n'a rien à voir. »«
Je le vois bien. »«
Qu'est-ce que tu vois ?»«
Que tu t'es éteint à mes côtés. »
Il ne trouve rien à répondre, horrifié par ses paroles. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, bien au contraire. Il tente de balbutier.
« C'est l'inverse, Johan. Tu m'as ouvert les yeux, tu m'as montré la beauté des choses, tu... »«
Ce mariage était peut-être une erreur. Avant, tu étais heureux. »
Il secoue la tête avec ferveur. Il a l'impression que rien de ce qu'il dira ne pourra pleinement convaincre Johan.
« Non, c'est la maladie, c'est ma mémoire, c'est... »
Il pousse un profond soupir.
« Je commence à tout oublier. » Les choses du quotidien, mais pas seulement. Même les étapes de notre voyage commencent à s'effacer de ma mémoire.
Il entend sa voix qui se brise. Il sent les larmes qui emplissent ses yeux. Il sait que Johan peut les voir, alors il tourne la tête vers l'étang pour les masquer. Il s'est juré de ne pas pleurer, mais tout à coup c'est trop.
Je suis pas prêt à ça. Je veux dire, je croyais que je l'étais, et puis maintenant je réalise que c'est pas le cas.
Johan lui laisse le temps de respirer, de se reprendre. Lorsqu'elle parle, sa voix est si basse qu'il l'entend à peine.
« Je suis désolé. »
Le silence se prolonge dans l'obscurité qui gagne la plage. Le soleil s'est tout à fait couché maintenant. Poc s'est pelotonné contre la coque du bateau.
« Je... Je te raconterai, murmure Johan avec douceur. Si tu oublies notre voyage, je te raconterai.
Il sent une larme qui coule sur sa joue, mais il ne l'essuie pas, sinon Johan saurait qu'il pleure. Il secoue la tête en se retenant de renifler.
On a nos carnets tous les deux. Tu pourras les lire et...
Elle se tait car elle comprend que ce n'est pas ce qu'il veut entendre. Le silence retombe. Au loin, ils entendent Sébastien qui prépare le repas. Le bruit d'une casserole qu'on pose sur le sol.
Tu ne dis rien ?
Demande Johan dans un chuchotement. Il sent les larmes qui arrivent en cascade et il ne veut pas qu'elle reste là, qu'elle voie ce spectacle désolant. Il répond avec une certaine dureté. Tu devrais pas être si gentil avec moi et t'obstiner à me remémorer toutes ces choses. Parce que de toute façon, c'est toi que j'oublierai en premier.
Il est frappé lui-même par la dureté de ces mots. Il aimerait la regarder dans les yeux, la prendre dans ses bras, dire n'importe quoi pour rattraper cette phrase, mais il ne faut pas. Elle ne doit pas voir qu'il pleure. Et puis il a raison au fond, à quoi bon? Les médecins l'ont dit, la mémoire ancienne restera intacte, mais la plus récente s'effacera rapidement. Elle sera la première personne à disparaître de ses souvenirs.
Il l'entend se relever, murmurer.
Je vais voir si Sébastien a besoin d'aide, d'accord?
Il ne répond pas. Il la voit s'éloigner du coin de l'œil, puis sa vue se brouille totalement alors que les larmes envahissent son visage et laissent un goût salé sur le bout de ses lèvres. Il s'est passé une demi-heure, peut-être davantage, lorsque Sébastien vient trouver Émile.
Le repas est prêt. Viens donc près du feu. Il fait un froid de canard ici.
Il a séché ses larmes. Il se sent un peu plus léger. Ça libère un peu de pleurer. Sébastien n'a pas l'air de remarquer quoi que ce soit sur son visage.
Je dois aller chercher Poc, dit Émile. Où il est?
Il est monté dans ton bateau, je crois.
En effet, il récupère le chaton dans le bateau, couché en boule sous le petit banc qui sert à pagayer.
C'est le chaton de Johan? Demande Sébastien avec son éternel air curieux.
C'est le nôtre.
Est-ce que vous êtes...
Visiblement, Sébastien est embarrassé. Il se tord les mains et hésite. La fin de la question finit cependant par tomber.
Un couple ?
Émile a un sourire amusé. Tout à l'heure, il a été agacé par Sébastien et l'intérêt qu'il semblait porter à Johan. Maintenant, il a la confirmation que Sébastien aime beaucoup Johan. Mais après la conversation qu'il vient d'avoir avec elle sur la plage, les choses lui semblent différentes. Les larmes l'ont soulagé. Il faut qu'elle continue de sourire, coûte que coûte. Aussi, il répond à Sébastien, toute animosité disparue.
Non, c'est une chouette fille, mais on n'est pas un couple.
Ah !
Sébastien détourne la tête en rougissant. Émile lui sourit à nouveau. C'est vrai qu'il est touchant, Sébastien, avec son innocence de grand enfant.